France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Nous sommes le samedi 9 novembre, soyez les bienvenus sur France Musique. Laurent Lefrançois est à la réalisation, Maïwenn Lejean et Julien Calvas à la technique. Bienvenue dans cette émission que nous consacrons aux pratiques amateurs, au chant choral, à la pédagogie et au plaisir de la musique. Et voici le menu du jour. À 8h, Christophe Chassol décortiquera avec Aliénor et Joshua, deux jeunes chanteurs, la chanson « Sous le soleil exactement » de Serge Gainsbourg. À 8h10, la violoniste Sarah Nemtanou évoquera ses premiers pas de musicienne. À 8h20, notre reportage avec cette semaine un focus sur les chaînes YouTube qui nous apprennent à jouer d'un instrument. Dans sa chronique « Battement de cœur », Marc-Olivier Dupin nous parlera de Brahms et de ses pièces pour cœur et piano. Nous irons également en région avec la gambiste Florence Bolton. Nous embarquerons à bord de son opéra bus à 8h40. Enfin, Rosine Bachelot n'aura lieu que pour le Freischütz de Weber, opéra à l'affiche de notre soirée opéra. Mais pour démarrer en ce 9 novembre, qui d'autre, je vous le demande, que Rostropovitch. Emblématique, celle du violoncelliste Mstislav Rostropovitch jouant une partie des suites de Jean-Sébastien Bach assis devant le mur de Berlin, moins de 48 heures après l'ouverture des frontières. C'était il y a 30 ans aujourd'hui et nous célébrons cet anniversaire de la chute du mur, symbole de la fin du bloc communiste sur France Musique bien sûr, avec notamment l'émission Génération France Musique le live qui sera diffusée en direct de l'Institut français à Berlin tout à l'heure à 16h. Et puis demain dans son émission Cœur de l'orchestre, Christian Merlin évoquera le paysage orchestral berlinois avant et après le mur. Ce sera dès 9h. Enfin demain toujours, de 14h à 16h, Frédéric Lodéon rendra hommage au grand violoncelliste que l'on vient d'entendre, Mstislav Rostropovitch. Ce sera dans son carrefour de l'Odéon. Il est 7h34. Thank you. Vassily Sinaïski à la direction de l'Orchestre Philharmonique de la BBC pour cette valse fantaisie de Mikhaïl Glinka ce matin. Une danse bien pour vous suggérer une sortie pour ceux qui se trouvent à Paris en ce week-end prolongé, le deuxième week-end famille organisé au musée d'Orsay et de l'Orangerie. Et cette année, les thèmes de la danse et de la musique seront mis à l'honneur en marge notamment de l'exposition Degas à l'Opéra au Musée d'Orsay, exposition dont France Musique est partenaire. Alors de nombreuses activités gratuites sont proposées tout au long du week-end pour petits et grands. Des ateliers de création, des spectacles, des visites décalées, des cours de charleston même. Plus d'informations sur le site du Musée d'Orsay, musée-orsay.fr. Une autre proposition pour ceux qui préfèrent, eux, les salles obscures, avec la sortie du nouveau film de Ron Howard consacré à Luciano Pavarotti. Le réalisateur retrace dans ce documentaire la vie incroyable et la carrière de l'illustre ténor italien, en s'appuyant sur des archives rares, sur de nombreux témoignages aussi. Une sortie en partenariat avec France Musique.
Questo quello per me pari sono a quant'altri d'intorno, d'intorno mi vedo, nel mio cuore l'impero non cedo, meglio dura che ad altra beltà, da costoro a Venezia e quell'oro, e che il fato ne fiora. Chi vuole si servi fedele, non va a morno se non v'è libertà. E mariti il geloso furore, e gli avanti le spalle derido. Anco d'argo i cent'occhi di sfido, se mi punge una qualche beltà.
Questa o quella, extrait de Rigoletto de Giuseppe Verdi, interprété ici par Luciano Pavarotti pour évoquer ce documentaire de Ron Howard à voir dans les cinémas un petit peu partout en France.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Chaque semaine, je sélectionne pour vous un livre-disque ou une bande dessinée pour faire découvrir la musique classique aux enfants. Et bien aujourd'hui, j'ai jeté mon dévolu sur Le Piano d'argent, paru chez Little Village, la collection jeunesse du label Harmonia Mundi. Un joli livre-disque qui vous permettra de partager un agréable moment musical avec vos enfants, ou bien vos petits-enfants peut-être. L'histoire nous est racontée par Charles Berling. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit seul dans un grand château avec pour compagnie deux pianos. Il se sent bien seul jusqu'à ce que débarque un jeune pianiste de bal. Le disque offre les musiques de Mozart, de Chopin, de Satie, de Mumpong, même de Gershwin, interprétées par de très grands pianistes du label Harmonia Mundi, Javier Perianès, Frank Bralet, Alexandre Tarou ou encore Christian Bezuidenhout. L'auteur n'est autre que Claude Clément, spécialiste de la littérature jeunesse. Quant à Xavier Devos, elle en signe les illustrations. Je vous propose de nous plonger dans l'ambiance de ce récit et d'ouvrir grand les portes de ce fameux château.
Aux alentours et à l'intérieur de cette étrange demeure, la vie n'était pas silencieuse. Des abeilles bourdonnaient autour des buissons fleuris. Des colombes roucoulaient en haut de tours vertigineuses. Des oiseaux pépiaient aux branches des grands arbres en plein midi. Des chouettes ululaient la nuit. Des chats ronronnaient dans la paille des écuries. Au loin, dans les bois, des cerfs bramaient parfois. Des lutins avaient même élu domicile dans le creux des rochers. Avec leurs ailes vibrantes et transparentes, des petites fées voletaient au-dessus des ruisseaux. Et surtout, le jeune maître des lieux jouait du piano. Il possédait deux instruments au bois patinés par le temps. Le premier était assez vieux, un pianoforte dont le timbre délicat lui rappelait la voix de son grand-papa. Le second était un piano à queue au son généreux, évoquant pour lui le ton affectueux de son père. Et quand il effleurait son clavier, il avait parfois l'impression d'être encore câliné par sa mère. Le jeune châtelain jouait bien, mais il ne jouait pour personne, car il était le dernier survivant d'une famille disparue tout entière. Et il ne s'en consolait pas. Avec obstination, il retravaillait 100 fois les mêmes partitions, à la recherche d'un bonheur envolé qui lui semblait impossible à retrouver.
Et puis le jeune pianiste de Bâle va débarquer et puis mettre un petit peu d'ambiance dans ce château et remonter le moral de ce jeune châtelain esselé. Un extrait de ce piano d'argent, livre-disque paru chez Little Village, la collection jeunesse du label Harmonia Mundi qu'on découvrait ensemble ce matin. Il est 7h50.
Thank you.
La sixième barcarolle de Gabriel Fauré, enregistrée ici en 1937, et oui, par Marguerite Long, dont le concours Long-Thibault Crespin porte le nom. Ce concours a d'ailleurs démarré hier soir, il se déroulera jusqu'au 16 novembre prochain. Session consacrée au piano cette année. Les finales du concours seront d'ailleurs à suivre en direct et en vidéo sur francemusique.fr, en partenariat avec France TV et Medici TV, dès lundi prochain, avec notre très chère Judith Chen à la présentation. Et puis la semaine prochaine, Françoise Monteil proposera, elle, dans ses trésors de France Musique, une semaine d'émissions d'archives pour réécouter Marguerite Long, mais également Samson François, qui a été le premier lauréat du concours en 1943, ou encore la très grande Régine Crespin. En parlant de voix, ça tombe bien, puisque c'est l'heure de notre concours, et je vous propose ce matin de gagner sur France Musique deux places pour le concert que le ténor Cyril Dubois donnera le 19 novembre prochain. Ça se passe à l'Éléphant Paname, qui est situé à deux pas de l'Opéra Garnier à Paris, et ce dans le cadre de la saison L'Instant Lyrique. Rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous donnez vos coordonnées, et puis la bonne réponse à la question qui va suivre, et vous recevrez peut-être deux places dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Alors ce matin, je vous propose de deviner le nom du compositeur à qui Cyril Dubois consacre son premier album qui vient de paraître chez Aparté. Trois propositions, est-ce Mozart, Franz Liszt ou bien Ennio Morricone? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Thierry Dubois, accompagné ici par Tristan Reiss, un extrait de ce nouveau disque qui paraît chez Aparté en partenariat avec France Musique. Mais qui est l'auteur de cette mélodie que nous venons d'écouter et à qui d'ailleurs l'entièreté du disque est dédiée? Bien, c'est la question que je vous pose ce matin pour remporter vos places pour le récital que Cyril Dubois donnera le 19 novembre prochain à l'Éléphant Paname à Paris. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr bien sûr, et puis envoyez-moi la bonne réponse.
Bonjour, c'est Corinne Schneider. Je vous invite sur France Musique à écouter une émission entièrement consacrée à Jean-Sébastien Bach, à ses œuvres, à celles de ses fils, à ses contemporains et à tous ceux qui sont en quelque endroit ses héritiers. Rendez-vous tous les dimanches de 7h à 9h avec une cantate et de nombreuses découvertes ou sur francemusique.fr pour les lève-tard.
Jeudi 14 novembre, Karine Déhay est l'invitée de France Musique. Retrouvez la mezzo-soprano dans Musique Matin, Allegretto et Relax. Et à 20h, Karine Déhay and Friends, une soirée festive avec ses amis chanteurs et musiciens, les sopranos Nathalie Dessay et Annick Massis, les ténors Julien Bert et Cyril Dubois, le pianiste Johan Fargeau, Olivier Pie. Toutes les infos sur francemusique.fr et en podcast.
France Musique, il est 8h.
Cher auditrice, cher auditeur, cher auditrice, cher auditeur.
Bonjour Christophe Chassol.
Eh bien bonjour Saskia. Ce matin, ce samedi matin, nous allons nous intéresser à un morceau d'un compositeur et parolier, musicien français, qui s'appelle Serge Gainsbourg, et c'est un morceau que j'adore, que je n'ai jamais trop joué, mais qui s'appelle « Sous le soleil exactement ». Voilà, on est accompagné de Aliénor et Joshua.
Bonjour, Aliénor, 11 ans, en 5e, du cœur d'enfant sotto voce.
Ça veut dire quoi, sotto voce?
Je crois que c'est doucement ou doux, chuchotement ou un truc comme ça.
D'accord. Joshua?
Salut Christophe, je m'appelle Joshua Duche, je suis en 6e, j'ai 11 ans et je fais partie, du cœur d'enfant sotto voce.
Super. Qui est dirigé par Scott Alan Proti. Alors, « Sous le soleil exactement », ça a été écrit en 1964 par Serge Gainsbourg, qui est un génie. Vraiment, moi, je trouve qu'il a écrit trois albums fabuleux que je vous recommande d'écouter pour leur musicalité, pour les arrangements de cordes qu'on entend dedans. C'est « Melody Nelson »,« L'homme à la tête de chou », et puis « Aux armes », etc. Alors ça, c'est dans aucun de ses albums, « Sous le soleil exactement », mais j'aime beaucoup le dessin de la mélodie. Je voudrais vous montrer comment cette mélodie est construite. Elle est construite par mouvements parallèles, mouvements miroirs, un peu des mouvements qui se ressemblent. On va l'écouter un petit peu. Vous voyez, alors la mélodie fait. Donc voilà, c'est sol, 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 fa, sol, la, sol. Et le son, c'est comme si il nous présentait son cousin ensuite. Mi, 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 ré, mi, fa, mi. Ensuite, do, 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 ré, ré, mi, fa, sol. Voilà, donc ça, déjà, c'est. Pour moi, l'idée que vous puissiez arriver à découper vos mélodies et voir ce qui se ressemble, ce qui a changé dans une mélodie, etc. Donc, on va le faire avec les paroles. Un point précis sous le tropique. On essaye ? Un.
Un point précis sous le tropique. Du capricorne ou du cancer.
Alors c'est pas mal ça. Vous avez vu ce moment-là, il est génial ce moment-là. Sous le soleil exactement. Je vais vous montrer un truc qui se passe là-dedans. C'est du sucre pour moi. Écoutez ça. Sol la si do do.
une petite glissade comme ça. Elle est trop agréable à chanter, à jouer. Donc, ça, on essaye de ça ? Sous le soleil, exactement. Hein ?
Sous le soleil, exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Levé sous le soleil, exactement.
Il y a un truc très subtil qui est très beau. Écoutez, c'est ça. C'est quand ça fait...
Sous le soleil, exactement.
Ensuite. Et là, il fait... Écoutez ça. Pas à côté, pas n'importe où. Alors, il fait...
Mi, ré, do,
tout en maintenant le fa.
Pas à co.
Vous pouvez me faire ça ? Pas à co. Oh, c'est beau, on peut faire ça en boucle.
Pas à co,
pas à
co, pas à co, pas à co,
plus fort.
Pas à co, pas à co, pas à co.
T'es
pas n'importe où.
J'adore qu'en fait que cet accord soit pas n'importe, au lieu de faire c'est le soleil, exactement, juste en dessous. Tu vois, ça pourrait être ça direct, mais lui il fait juste en dessous. Il met ce do ici. Et ça, c'est des petites subtilités, c'est pour suspendre l'accord en fait. Au lieu de. Là, il le ferme direct. Alors qu'il fait. Elle est pas, elle devrait pas être là vraiment cette note normalement. Bref, c'est un beau morceau non quand même, non ?
Oui.
Eh ben merci les amis, bravo Joshua et Aliénor et ben, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ok.
À la semaine prochaine.
Comic strip de Serge Gainsbourg, revisité ici par le chœur, sotto voce à 8h09.
1, 2, 3. Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Pourquoi n'en fais pas ?
Et dans cette émission, nous nous intéressons au chant choral. Ça, ce sera avec Marc-Olivier Dupin à 8h30. Nous nous intéressons aussi à la pédagogie, à la transmission, aux pratiques amateurs. Ces amateurs qui jouent pour leur propre plaisir, c'est d'ailleurs par là que tout a commencé pour les musiciens professionnels. Et ce matin, j'ai demandé à la pétillante violoniste franco-roumaine Sarah Nemtanou, premier violon solo de l'Orchestre National de France, de nous raconter ses débuts et l'impact de la musique sur sa vie.
Qu'est-ce que la musique me procure ? J'aime beaucoup ce mot « résonance »,« résonner ». Comme si tout mon corps entrait un petit peu en résonance et que chaque organe, chaque parcelle du corps vibrait. Et je crois que c'est ça qui est magique et unique avec la musique, c'est que ça procure vraiment un bien-être total, aussi bien dans la sensation du corps que dans le psychique, dans la façon dont on se sent dans la journée. Moi, je sais que si j'ai bien travaillé et que j'ai fait ce qu'il fallait, je peux passer une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où je travaille. Voilà, la musique, ça me procure un bien-être général. Alors, mon premier cours de musique, dans mon cas, est un petit peu particulier parce que mon père était lui-même violoniste, donc il n'était pas du tout en mode « je te donne un cours, ma fille », mais plutôt, c'était plutôt moi et ma sœur, qui a juste 2 ans de moins que moi, qui étions un peu fascinés par notre papa quand il travaillait à la maison, et on a tout de suite porté un vif intérêt quoi, à faire la même chose, et du coup, c'est venu très très naturellement. J'ai pas le souvenir. Après, le souvenir, c'est que oui, il nous a complètement cadré dans le sens où il nous a rendu indépendantes. Il nous conseillait. C'était un conseiller, notre père. Le plus difficile dans l'apprentissage du violon, c'est de pas avoir l'air coincé quand on joue. C'est une position pas très naturelle, contrairement au violoncelle, qui est l'autre instrument à cordes, où là, le violoncelle est ancré dans la terre, on a les épaules bien alignées, hop, on met ses bras, voilà, à peu près au même niveau. Le violon, il y a un bras, le bras gauche vers le haut, et le bras droit qui pose l'archet sur les cordes. C'est un petit peu asymétrique, et trouver cette symétrie, et c'est pour ça qu'au départ, ce qu'a très bien fait mon papa, c'est travailler ce côté naturel, donc un petit peu hermétiser le côté gauche et le côté droit. Donc se sentir bien d'abord à droite avec des exercices d'archer où on fait remonter l'archer juste avec la main droite. On parcourt en faisant courir les doigts tout au long de l'archer. On faisait des exercices, il nous mettait une petite balle de ping-pong dans la main droite pour que quand on tienne l'archer, la voûte de la main reste bien ronde et que la balle ne tombe pas. Que des choses comme ça qui font que « Ah mais oui, j'ai envie d'apprendre. » Finalement, tous les jours, il y a un nouveau petit challenge, un petit défi. Et puis finalement, ça devient quelque chose de naturel, comme quand on va, comme quand on va prendre un verre et qu'on va le boire, que ce soit quelque chose auquel on ne réfléchit plus, que ce soit complètement intégré dans le corps. Si j'avais un conseil à donner à un violoniste qui vient de commencer l'apprentissage, ce serait de ne pas oublier de chanter et de se faire plaisir. C'est-à-dire que le violon est une voix. Il faut essayer de faire en sorte que son travail, au-delà du travail technique, parce qu'on a une petite tendance quand on fait du violon, « Ah, il faut que je travaille ma justesse. Ah, il faut que je travaille mon rythme. » Mais surtout, c'est la justesse, parce que c'est un instrument très exigeant à ce niveau-là. Alors, ne pas se perdre et ne rentrer que dans ce vice-là de travailler sa justesse. Il faut aussi travailler le chant et développer son autocritique et se faire son propre spectateur, en fait. Allez, je reprends mon morceau, maintenant je le joue. J'ai bien travaillé, je le joue une fois, ou deux, ou trois, ou quatre, mais je le joue en entier sans m'arrêter. Et j'essaye de voir si ça me plaît, si ce que je fais est assez plaisant. Donc voilà, ça, le chant, ne pas oublier de chanter quand on fait du violon, même au tout début.
Le troisième mouvement de cette œuvre, Souvenir de Florence de Tchaïkovski avec Sarah Nemtanou, Luc Herry, Sabine Toutain, Christophe Goguet, Raphaël Perrault et Jean-Luc Bourré. Il est 8h20.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est l'heure de notre reportage du jour. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Saskia.
Alors on trouve de tout évidemment sur YouTube. L'analyse du prétendu désamour entre Salieri et Mozart, l'importance de la musique classique dans l'univers du football, vous m'en rendez curieuse, ou encore la présentation de la clarinette en si bémol. Les chaînes pédagogiques envahissent la plateforme de vidéos depuis un moment. Alors pas étonnant quand on sait que 3 Français sur 4 déclarent regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre sur les sujets qui les intéressent. Marie, vous êtes penchée sur 2 chaînes consacrées à la musique classique.
Et oui, j'ai passé mon week-end à ça.
Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube dédiée à la clarinette. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une œuvre d'un compositeur polonais, Witold Lutosławski. Bonjour, aujourd'hui je vous parle du Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen.
Hi everyone, my name is Raphaël and on this video we are gonna talk about 5 exercises that are really good to warm up, so let's just jump into it.
Alors Saskia, let's just jump into it, c'est compliqué l'anglais le matin. La clarinette en si bémol, c'est Raphaël Sever qui nous l'explique via sa chaîne. Il est clarinettiste professionnel et compte près de 500 abonnés sur YouTube. Il s'est illustré notamment par la présentation de pièces du compositeur français Olivier Messiaen, juste pour le plaisir de partager sa passion.
J'ai fait une vidéo avec un guitariste où ses clarinettes guitare ont fait découvrir ce duo. Et ça, par exemple, on va pas enregistrer 2 disques, on va pas et donc c'était un peu le seul moyen de faire découvrir ça.
La chaîne de Raphaël Sever s'adresse à tout le monde, mais particulièrement aux clarinettistes, puisque des tutos leur sont réservés.
Et oui, c'est ce qu'il y a, les tutoriels, hein, ces vidéos pédagogiques, comment bien faire ses gammes, comment bien s'échauffer, ou alors il y a aussi cette vidéo qui décortique l'instrument.
La clarinette se compose de 5 parties qui s'assemblent. Le pavillon, qui permet une meilleure projection du son, le corps du bas, le corps du haut, le barillet, qui permet d'ajuster le diapason, et la partie la plus importante, le bec. Pourquoi la plus importante? Car c'est à partir du bec que se fabrique le son, grâce à ce petit bout de roseau qu'on appelle une hanche.
Alors Saskia, vous avez entendu Raphaël parler en anglais hein, dans l'une de ses vidéos. Le musicien est victime de son succès, il atteint des abonnés asiatiques et américains. Bon alors il ne se considère pas comme un youtubeur professionnel, mais il l'admet, la chaîne lui apporte des opportunités.
Il y a même des débouchés très étonnants. Par exemple, il y a un grand festival de clarinette en Guyane et donc qui m'ont invité parce qu'ils ont découvert la chaîne YouTube, etc. Donc comme quoi.
En tout cas, avant peut-être de partir jouer en Guyane, Raphaël va s'attaquer dans sa prochaine vidéo aux clichés sur les musiciens de musique classique. Est-ce qu'en avant-première, on peut avoir un des clichés?
Les musiciens de musique classique sont forcément chiants et ennuyeux car un télo à lunettes est premier de la classe.
Alors, ce qui nous permet une transition parfaite, c'est ce qu'il y a pour vous présenter l'autre chaîne car eux, ils renversent totalement ce cliché.
Alors, cap sur les Cello Kids, cette chaîne YouTube montée par des musiciens très créatifs et loin, loin d'être ennuyeux. Eux sont spécialisés dans le violoncelle.
Valérie Emma, Cédric Laurel,
Antonina Zaraba,
Cello Kids.
Oui, les Cello Kids incarnés par des musiciens pros, mais pas forcément des pros de YouTube, n'est-ce pas Valérie Emma?
Alors c'est vrai que moi je suis un peu à la traîne parce que pour rien vous cacher, ça fait seulement 6 ans que j'ai un ordinateur, donc c'est quand même une belle évolution dans ma vie que d'avoir 25 000 vues sur YouTube.
Alors ici, pas de tuto, ni de montage élaboré, juste des morceaux filmés.
Oui, mais ces professeurs de conservatoire ont donné, attention jeu de mots, un grand coup d'archet à cette toute jeune chaîne qui existe depuis quelques mois, puisqu'elle compte déjà une 60aine de vidéos. C'est une invitation à découvrir des compositeurs.
Fernandino Ronchini, Auguste Null, William Squier, violoncelliste anglais, qui était le dédicataire de la Sicilienne de Forêt. Pour les professeurs de violoncelle, tous ces noms-là, c'est notre quotidien. Et c'est souvent des pièces, des miniatures, en fait, qui sont absolument charmantes, avec des harmonies très démodées, on va dire, mais très, très touchantes. Et quand on enseigne, ben, pendant 15 ans, 20 ans, on fait travailler ces pièces. Et elles ont des qualités musicales qui méritent vraiment d'être entendues au-delà des auditions des conservatoires.
Ferdinando Ronchini et sa danse vénitienne interprétée par Antonina Zarava et Cédric Laurel au piano. Alors, le bonus Marie de cette chaîne, pour accompagner ses œuvres, le trio de professeurs a eu une bonne idée et vous vous doutez que la pédagogie n'est jamais bien loin.
Et oui, par exemple, le Nocturne de Tchaïkovski se jouera la nuit avec des bougies. Lorsque Cello Kids joue, ils associent un thème, un objet, un déguisement ou un tableau à la pièce. Valérie Aymard.
Par exemple, la première pièce de Nadia Boulanger, qu'on a associée avec un tableau de Nénuphar de Claude Monet. Ensuite, la romance de Forêt, qu'on a associée avec un tableau de Vuillard. Et c'est vrai que dans notre travail de pédagogue, bon, on a tellement de choses à apprendre à nos élèves par rapport au jeu de violoncelle. Et je pense que c'est très important, comme musicien, de faire connaître les autres arts aussi et d'étendre vraiment le champ et de pas parler que de violoncelle.
Les chaînes YouTube Cello Kids et puis celle de Raphaël Sever, du clarinettiste, sont à découvrir, bien sûr. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été fouinée pour nous. On vous retrouve la semaine prochaine, évidemment, avec un nouveau reportage. Et pour continuer à 8h26, eh bien, rien de tel que Raphaël Sever, cet excellent clarinettiste ici, dans quelques mesures de ce troisième mouvement du premier concerto pour clarinette de Karl-Maria von Weber. Bien l'applaudir, Raphaël Sever, ici accompagné par le Deutsche Symphony Orchestra de Berlin, Aziz Chokakimov à la direction, pour ce rondo, troisième mouvement du premier concerto pour clarinette de Carl Maria von Weber. Il est 8h33. C'est la chronique battement de cœur de Marc-Olivier Dupin, comme chaque samedi matin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Brahms amoureux aujourd'hui comme thématique de chronique, quel programme?
Oui, surtout après Weber, ça c'est une grande logique.
Bien, hein,
tout à fait. Alors Brahms a été un grand amoureux, on le sait, puisqu'il a eu cette passion longue et magnifique pour Clara Schumann et puis à d'autres femmes. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il a écrit énormément de choses pour la voix, qui sont des chants d'amour de toutes sortes, et notamment ces extraordinaires Liebesliederwalzer, dont on entend un extrait maintenant.
Un amour tumultueux ou enthousiaste, du moins.
Tout à fait, tout à fait. Et je voudrais dire quelques mots sur cet enregistrement absolument magnifique que j'avoue avoir écouté en boucle quand j'étais ado. J'adorais ce disque, ce 33 tours. Un ancien chef de chœur de l'ORTF, donc l'ancêtre de Radio France, Marcel Courault et le quatuor vocal de Stuttgart. Et c'est vraiment un enregistrement qu'il faudrait ressortir des limbes parce qu'il est absolument sublime. Alors, la formation est originale puisque ces quatuors vocales et piano à quatre mains. On peut espérer que les pianistes soient aussi un peu amoureux, ça ne peut pas nuire. Mais il y a aussi des versions pour toujours les deux pianos, mais chœur. Et là, on a une très belle version de Gardiner avec le Monteverdi Choir.
Thank you.
Mais Marc-Olivier Brahms a-t-il beaucoup écrit pour les ensembles vocaux ?
Il a énormément écrit pour la voix. Il y a un certain nombre de leaders qui sont très connus. Mais pour les ensembles, il y a énormément de choses. Pour chœur, il y a des chants d'amour. Il y a des choses aussi beaucoup plus luthériennes dans ces sujets. Mais c'est une production qui est absolument considérable. Il y a plus d'une centaine d'œuvres pour ces ensembles vocaux. Alors l'originalité de ces Liebeslieder, c'est un mélange, comme tous les chefs-d'œuvre d'ailleurs, c'est un mélange composite singulier, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'écriture vocale qui vient d'ailleurs du choral luthérien, les quatre voix, mais qui sont transfigurées par la valse et un certain folklore.
Et d'où lui vient donc ce folklore ?
Alors Brahms a été très fasciné par le folklore dès ses premières années, puisque à Hambourg, dans sa jeunesse, il a entendu énormément de musiciens hongrois qui étaient des réfugiés. Les mouvements, les soubresauts de l'histoire de l'Europe ont fait que beaucoup de musiciens hongrois ont atterri à Hambourg, et ça a été une chose très marquante pour lui. Et c'est très intéressant parce que dans l'œuvre de Brahms, il y a du vrai folklore, mais il y a aussi du faux folklore. Par exemple, dans les danses hongroises, les quelques premières danses sont vraiment inspirées du véritable folklore hongrois, et puis après, on a l'impression qu'il se lâche et il écrit du faux folklore, et c'est tout aussi génial que le vrai folklore.
Brahms amoureux, revisité par Marc-Olivier Dupin. Merci beaucoup pour cette chronique, Marc-Olivier. On vous retrouve la semaine prochaine.
Avec joie, Saskia.
Bonne semaine. Brahms pour nous emmener jusqu'à 8h40, l'heure d'accueillir notre invité du jour.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Florence Bolton.
Bonjour Saskia.
Bienvenue dans Musique Matin. Quel plaisir de vous accueillir ce matin. Vous êtes fondatrice, directrice artistique de l'ensemble La Rêveuse aux côtés de Benjamin Perrault. La Rêveuse, un ensemble composé de musiciens solistes qui travaillent sur les patrimoines artistiques des 17e et 18e siècles. On a le grand plaisir de vous recevoir ce matin. Merci. À l'occasion de la prochaine tournée de l'Opéra Bus, initiative que j'adore et dont j'avais vraiment envie de parler ce matin. Prochaine tournée qui démarra dans quelques jours, le 12 novembre jusqu'au 26 novembre. De quoi s'agit-il, Florence Bolton, pour
l'Opéra
auditeurs
Bus, donc c'est un bus qui est transformé en salle de spectacle mobile.
Alors les gens rentrent dans le bus et l'avantage qu'il a, c'est de pouvoir aller n'importe où, là où il n'y a pas de salle forcément dédiée à accueillir des gens. Et effectivement, on va l'utiliser surtout en milieu rural. Et parfois, on traverse effectivement des villages où il n'y a rien. Donc le bus s'arrête au milieu du village et les gens montent dedans.
Alors, salle de concert mobile, combien de spectateurs peut-il accueillir cet opéra-bus?
Alors, il n'est pas très grand. On peut faire rentrer 30 adultes ou 40 enfants.
Voilà. Tout simplement. Il faut réserver ses places, comment ça marche?
Alors, il vaut mieux pour éviter qu'il y ait une bataille à l'entrée. Mais effectivement, il est petit, mais en même temps, ça permet d'avoir cette proximité avec le public. Et on propose justement des concerts interactifs avec les gens. Et on s'adresse en particulier à un public qui ne va pas au concert, qui pense que le concert classique, c'est pour les urbains ou je ne sais quoi. Donc voilà, on s'adresse vraiment à ce public-là pour leur montrer que la musique, c'est quelque chose d'universel et que tout le monde a du plaisir à venir écouter de la musique, même de la musique classique.
Alors la musique ancienne, il y a tout de même opéra dans Opéra Bus. Il n'y a que de l'opéra au programme ou justement non?
Alors nous, ça sera de la musique instrumentale, mais il s'appelle Opéra Bus parce qu'en fait, il a été construit sur les côtes de l'Opéra Garnier. Alors c'est un peu la surprise aussi quand on rentre à l'intérieur, c'est tout rouge et or, c'est un peu magique. Et l'année dernière, on avait fait une première tournée avec cet Opéra Bus, donc qui appartient à une association qui est à Valenciennes, dans les Hauts-de-France, qui s'appelle Harmonia Sacra. Et on avait connu cet Opéra Bus grâce au festival de l'Envelec, qui avait loué le bus et nous avait fait travailler dedans. Et donc... Le grand plaisir qu'on a eu l'année dernière aussi, c'est de voir des gens dans la région centre, parce que nous on l'utilise pour tourner vraiment dans la région centre-Val-de-Loire, des gens qui n'avaient jamais été à l'opéra. Il n'y a qu'un seul opéra dans toute la région centre, c'est à Tours. Et les gens disaient « Ah, c'est l'opéra qui vient à nous parce qu'on ne pourra jamais y aller ». Donc pour eux, c'était vraiment comme aller à l'opéra et ça faisait plaisir.
Et la région centre-Val-de-Loire que vous connaissez bien, vous allez la sillonner pendant ces tournées, je rappelle les dates du 12 au 26 novembre prochain. Vous faites un travail remarquable, hein. Je crois qu'il y a 35 représentations, je crois même plusieurs par jour.
Oui, on a fait 2-3 par jour.
À Vineuil, à Semois, à Saint-Jean-de-Bray, à Orléans, à Courtenay, à Saint-Hilaire, à Beaugency, à Saint-Ouen-les-Vignes, à Limeray, à Saint-Doulchard, pour citer quelques-unes de ces villes que vous allez visiter. Comment est-ce que vous tracez votre chemin, Florence Bolton?
Alors, on essaie de faire un tracé à peu près cohérent, c'est-à-dire pas aller dans un coin et puis le lendemain aller à l'opposé. Donc en fait, on prend toutes les demandes des gens qui sont intéressés, puis après on essaie d'ordonner ça dans une période. Là, on a 15 jours de disponibles cette année et on essaie de faire en sorte, voilà, de rester quand même un peu développement durable et de pas faire trop de kilomètres pour rien.
Et ça va, 3 représentations par jour, c'est faisable pour le musicien que vous êtes?
C'est vrai que c'est fatigant. L'année dernière, on avait fait 4 semaines, donc 60 représentations sur 4 semaines. Et là, il faut dire qu'en sortant, on était fatigués.
Qu'est-ce qu'on tire de cette expérience, justement, après 4 ou cette saison, 2 semaines de concerts intenses à sillonner des lieux moins fréquentés, on va dire, que d'habitude? Qu'est-ce que vous en retirez, vous, à Florence Bolton?
Le plaisir d'avoir l'impression de faire un travail utile, déjà, et puis de faire connaître du répertoire à beaucoup de gens. Ça nous permet aussi de voir un peu comment ça marche en ruralité, et le tableau n'est pas souvent très réjouissant, parce qu'il y a peu d'argent, il y a des problèmes de mobilité, les gens sont tout le temps dans leur voiture, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que... C'est difficile de faire de la culture loin des villes. Donc ça nous permet aussi, nous, de nous rendre compte de ce qui se passe, parce que finalement, quand on est musicien, on a souvent une carrière classique, entre guillemets, où on va dans des grandes salles de concert devant des publics habitués. Et ça permet aussi de garder les pieds sur terre et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de travail encore à faire pour faire connaître la musique. Et pas seulement la musique, mais tout ce qui va autour. La musique, c'est aussi un sujet de société.
So
Dietrich Buxtehude ici, avec ce titre, Herr, wenn ich nur dich habe, par l'ensemble La Rêveuse et puis la merveilleuse Maëlys de Villoutré, qui vous accompagne. C'est un extrait en avant-première. Vous nous faites un cadeau ce matin à Florence Bolton de ce disque qui paraîtra début 2020. Nouveau disque pour l'ensemble La Rêveuse, consacré aux cantates pour voix seule de Buxtehude. Buxtehude, un compositeur qu'on pourra découvrir dans l'Opéra Bus aussi, entre autres,
alors,
peut-être?
Malheureusement, non. Parce qu'en fait, on sera juste deux dans l'Opéra Bus, Benjamin Perrault et moi-même, pour des raisons de taille de salle, le bus est tout petit, et puis aussi de budget.
Et pour laisser la place aux spectateurs aussi.
Et pour laisser la place aux spectateurs. Et puis peut-être que les gens auront envie d'acheter ce disque Buxtehude plus tard. À la suite d'une séance Opéra Bus.
Parce qu'effectivement, votre discographie est riche. Florence Bolton, vous nous faites voyager. Plus récemment, c'était en Angleterre. Il y a la France, bien sûr. Et puis, cette fois-ci, en Allemagne, à Lübeck, au XVIIe siècle. Un petit mot, peut-être, sur Dietrich Buxtehude, pour ceux qui ne le connaissent pas, Florence Bolton.
Alors, donc, c'est notre troisième disque consacré à Buxtehude. Je pense que on doit avoir une petite obsession sur Buxtehude à la Rêveuse.
Qu'est-ce qui est si spécial alors?
Bah, sa musique, je sais pas, on l'écoute sans se lasser et en fait finalement j'ai l'impression que dans une vie on s'attache à quelques compositeurs. Bon, il y a Purcell évidemment, vous parliez de Londres, Saskia, et puis Buxtehude, on y revient et tant qu'on n'a pas complètement fait le tour du personnage, on continue à tourner autour.
Alors qu'avez-vous découvert de nouveau?
Alors là, cette fois, c'était la musique vocale, parce que les deux disques précédents étaient consacrés à sa musique instrumentale. Et là, on avait envie de chercher du répertoire pour voix seule, qui est quand même relativement encore rare à cette époque, puisqu'on a de la musique surtout pour plus de voix. Et donc, on a cherché chez Buxtehude, mais aussi chez quelques compositeurs qui sont en lien avec lui. Donc, il y a Franz Tunder, qui est son beau-père aussi, et son prédécesseur à l'église Sainte-Marie de Lübeck. Voilà, les choses se passent souvent en famille. Et puis, il y a aussi Christian Geist et Johann Philipp Förtsch qui sont passés entre Hambourg et Lübeck. Voilà, l'idée, c'est cartographier un peu la Hanse à cette époque. Les compositeurs voyageaient encore beaucoup, sauf Buxtehude, peut-être, qui est vécu au Danemark, mais une fois qu'il s'est installé à Lübeck, il n'a plus jamais bougé. Et c'est le monde qui venait à lui, parce qu'il était quand même assez connu, très réputé. Et les gens venaient voir dans les guides de voyage de l'époque. On cite même pour la ville de Lübeck, il faut absolument passer à Lübeck, voir Buxtehude et écouter ces Abendmusiken qu'il avait mis en place avec Tunder. Et voilà, c'était une curiosité de Lübeck.
Soirée donc musicale.
Voilà, soirée musicale.
Avec son beau-père donc. Qu'est-ce qu'on découvre ou qu'est-ce qu'on note à l'écoute de ces différents compositeurs, cet entourage peut-être de Buxtehude?
Alors moi je trouve qu'il y a une grande joie dans sa musique et c'est peut-être aussi ça qui fait du bien dans une époque où on a quand même pas mal de perspectives, pas toujours très gaies. Enfin je parle d'aujourd'hui. Et écouter la musique de Buxtehude, ça fait toujours du bien parce qu'on sent que c'est un personnage tellement égal, tellement, je sais pas, il a une espèce de foi aussi inébranlable et sa musique est assez joyeuse finalement et quelque chose qui fait du bien et puis elle s'écoute bien et chaque forme est différente. Enfin, c'est quelqu'un qui est un génie créateur. Quand il écrit un cycle de sonates, chaque sonate est différente de sa voisine, ce qui n'est pas le cas de tous les compositeurs à l'époque. Des fois, ils partent d'une forme et puis voilà, après
on
la décline, mais c'est toujours la même forme. Et Buxtehude, il prend toujours une forme différente, donc on ne sait jamais ce qu'il va inventer. C'est vraiment un improvisateur assez incroyable et les gens venaient aussi de loin, d'autres pays pour l'écouter improviser sur l'orgue à l'église Sainte-Marie.
Un grand novateur donc à découvrir sur ce disque et on en reparlera très prochainement sur France Musique bien sûr. Il faudra encore un petit peu patienter parce que le disque sort début 2020, je le disais. En attendant, eh bien, on va en écouter un deuxième extrait que vous nous offrez ce matin. Florence Bolton et puis, chers auditeurs qui habitaient la région Centre-Val de Loire, courez assister à l'une des représentations de l'Opéra Bus, qui démarrera le 12 novembre prochain jusqu'au 26. Il y a énormément de dates, hein, 35 au total, je le disais, pour aller applaudir Florence Bolton et Benjamin Perrault qui vous accueilleront dans ce décor constitué selon les codes de l'Opéra Garnier. Plein d'infos ou plus d'infos à retrouver sur le site de francemusique.fr. On va mettre les liens, les dates, etc., 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 parce qu'il y en a énormément. Florence, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
D'être venue partager, eh bien, ces quelques minutes avec nous ce matin.
Un grand
et
plaisir.
Puis bonne tournée surtout.
Merci.
Thank you.
Un extrait du prochain disque de l'ensemble La Rêveuse, dont Florence Bolton était notre invitée ce matin. Extrait de ce nouveau disque en avant-première, puisqu'il sortira début 2020. On en reparlera très certainement sur France Musique. Il est 8h53. Et c'est l'heure de la chronique de Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne.
Bonjour Saskia.
Un journaliste, Roselyne, vous avez un jour qualifié de franche tireuse. Alors notre opéra de ce soir doit vous enchanter.
M'enchanter, Saskia, m'enthousiasmer plutôt, puisque nous allons rendre hommage à un sacré franc-tireur, le fameux Freischütz de Karl Maria von Weber, créé au Königliche Schauspielhaus de Berlin en 1821. Il y a beaucoup de raisons de nous donner rendez-vous ce soir dans l'émission de Judith Chen, qui va nous faire revivre la production donnée au Théâtre des Champs-Élysées à la mi-octobre. Il est en effet incompréhensible que cette œuvre majeure du romantisme allemand soit si peu donnée en France. Comme les deux autres opéras de Weber, Oberon et Oriente, le Freischütz est quasiment devenu une rareté. Pour un musicien dont la statue figure sur la face du Palais Garnier, avouez que c'est un comble qu'aucun de ses opéras n'ait été joué à l'Opéra de Paris depuis 50 ans. Pourtant, en 1841, Berlioz et Pacini avaient composé une adaptation précisément pour l'Opéra de Paris, et puisqu'il fallait à cette époque obligatoirement un ballet, Berlioz avait écrit une version orchestrale de la fameuse Invitation à la danse, œuvre pour piano de Weber, pour garder la pureté du style du compositeur. C'est finalement le Théâtre des Champs-Élysées qui a le plus souvent sauvé la mise et l'honneur, puisque le Freischütz fut choisi pour un de ses concerts d'inauguration en 1913, et certains se souviennent également de la production de 2011 sous la baguette de John Elliott Gardiner. Dans cette tradition, vous allez donc retrouver la direction inspirée de Laurence Equilbet à la tête de l'Insula Orchestra, menant une distribution étincelante, avec le ténor Stanislas de Barbeyrac. Stanislas, c'est un de mes chouchous. Hein.
Moi aussi.
Enfin, il faut mieux être plusieurs sur un bon coup que tout seul sur un mauvais.
Hein. Voilà, c'est un dicton du jour.
Et après qu'il nous ait éblouis dans les Indes galantes à Bastille. Cette quasi-absence du Freischütz des scènes françaises est d'autant plus incompréhensible qu'il s'agit d'une œuvre majeure ouvrant une transition entre le Fidelio de Beethoven et le Tannhauser, Wagner se réclamant expressément de sa filiation avec Weber. Mais surtout, le Freischütz ouvre, si l'on veut bien accepter la flûte enchantée que l'on classe rarement dans cette catégorie, donc il ouvre la grande famille de l'opéra fantastique avec malédiction, sort, diablerie, tour de magie, genre qui va structurer une grande partie de la création lyrique au XIXe siècle, de la Nonne sanglante au Conte d'Hoffmann, sans oublier évidemment la tétralogie ou Faust. Nous allons donc nous retrouver en Bohême après la guerre de 30 ans et Max, pour gagner un concours de tir qui va lui permettre de conquérir un poste de garde-chasse et la main de la belle Agathe, passe un pacte diabolique. Je ne vous en dis pas plus, les frissons dans la gorge au loup sont absolument délicieux et rassurez-vous, un happy end vient clore cette ténébreuse affaire. Enfin, petit clin d'œil souvenir, l'ouverture du Freischütz, dont Debussy était grand admirateur, servit de générique à l'émission de Radio France qui enregistra la plus grande longévité puisqu'elle fut diffusée de 1951 à 1997, la fameuse tribune de l'histoire de André Castelot, Alain Decaux et Jean-François Kia. Donc cette tribune de l'histoire. Alors, en hommage à ce trio de légendes de la radio publique et de Karl Maria von Weber, dans l'ouverture.
Merci beaucoup Roselyne Bachelot pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. En attendant bien sûr de vous retrouver samedi prochain.
Bah, évidemment.
Bonne semaine Roselyne.
Bonne semaine.
c'est avec ces quelques mesures du Freischütz que se termine l'émission aujourd'hui. Un petit mot sur le concours avant de se quitter. Je vous offrai des places ce matin pour le récital que le ténor Cyril Dubois aura le 19 novembre prochain à l'Éléphant Paname. Je vous demandais à quel compositeur Cyril Dubois consacrait son premier album qui vient de paraître chez Aparté. Il s'agit bien de Franz Liszt. Les gagnants seront recontactés par email, bien évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Nelly Portal, à Laurent Lefrançois, à Maïwenn Lejean et à Julien Calvas. Et puis merci à vous de choisir France Musique pour ouvrir l'œil le samedi matin.
À réécouter sur francemusique.fr.